Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Bion, Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 9 février 2021. Bonjour, bienvenue. Une dizaine d'opposants au président tchadien Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, ont été incarcérés lundi et seront jugés pour avoir bravé une interdiction de manifester le jour de l'annonce de la candidature du chef de l'État à un sixième mandat. Ils sont 14, dont Mahamat Nour Hamed Ibedou, le secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits humains, c'était DDH et farouche critique du régime. Ils sont poursuivis pour trouble à l'ordre public, coups et blessures volontaires et destruction de biens et incarcérés à la maison d'arrêt de N'Djamena, a assuré le porte-parole du collectif d'avocats qui les défendent, Alain Kagombé. Dans la partie magazine de cette session d'information, interview exclusive de Succès Masra, le leader du parti des transformateurs réfugiés depuis samedi à l'ambassade des États-Unis à N'Djamena. Des heurts ont mis aux prises lundi à Dakar policiers et sympathisants d'Ousmane Sonko, figure de l'opposition sénégalaise, visée par une plainte pour viol et qui crie au complot ourdi selon lui par le pouvoir. Le député de 46 ans a nié les accusations sur son compte Twitter, écrit au complot et à la tentative de liquidation politique de la part du président Macky Sall, destinée selon lui à ruiner ses projets présidentiels en 2024. Les supporters de M. Sonko ont lancé des pierres sur les policiers qui les ont dispersés à coups de gaz lacrymogène. Des policiers ont été blessés dans la confrontation, a dit le porte-parole. Les sympathisants de M. Sonko ont ensuite mené des actions sporadiques dans les quartiers alentours et dressé des barrages au rond-point. Un premier convoi de 14 camions d'aide humanitaire de l'ONU est arrivé lundi à Bangui, sous escorte de casques bleus, après 50 jours d'un blocus de la capitale centrafricaine par des rebelles, a annoncé la mission de l'ONU sur place, la MINUSCA. Aucun des plus de 1600 camions bloqués à la frontière camerounaise, qu'il s'agisse d'aide humanitaire ou de marchandises, n'avait atteint Bangui depuis que des rebelles qui occupent depuis des années plus de deux tiers du pays ont lancé une offensive le 19 décembre en jurant de renverser le régime du président Faustin Archange Touadéra. Le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a dévoilé lundi soir un nouveau gouvernement comprenant sept ministres issus de groupes rebelles actifs sous l'ancien régime, comme prévu par l'accord de paix signé en octobre. Le nouveau gouvernement va prendre ses fonctions dans un contexte de crise économique aiguë, de tensions avec le voisin éthiopien et de récentes violences ethniques dans la région du Darfour. Au Maroc, au moins 28 personnes sont décédées après une inondation dans une usine textile clandestine située dans le sous-sol d'une maison de Tanger, ont annoncé lundi les autorités marocaines. Les députés marocains ont observé lundi une minute de silence à la mémoire des victimes que Rabat a qualifiées de martyrs de l'économie informelle. L'équipe d'experts de l'OMS chargée de découvrir les origines de la pandémie de COVID-19 va dévoiler aujourd'hui mardi de premiers éléments de réponse, une mise au point qui intervient après un séjour de 4 semaines à Wuhan en Chine, où la maladie avait fait son apparition en décembre 2019. Les États-Unis ont annoncé lundi leur intention de s'impliquer à nouveau dans le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Washington estime que la politique de la chaise vide de l'ancien président Donald Trump avait laissé le champ libre à des régimes autoritaires. Et puis un élu républicain du Congrès américain, Ron Wright, est décédé à cause du COVID-19, a annoncé son équipe lundi, devenant le premier membre siégeant au Capitole à succomber au virus. Âgé de 67 ans, l'élu du Texas à la Chambre des représentants est décédé dimanche. Le Texan avait été soigné pour un cancer au cours des dernières années. Le président Joe Biden, qui a fait de la lutte contre la pandémie l'axe central du début de son mandat, a déploré le décès de ce combattant qui a lutté courageusement à la fois contre le cancer et le COVID-19. VOA Afrique Info, en ligne de mire dans ce journal, une cellule djihadiste démantelée au Sénégal, la RDC, la République démocratique du Congo, bientôt en campagne de sensibilisation de sa population à la vaccination contre le coronavirus. Et puis ici aux États-Unis, les avocats de Donald Trump demandent l'abandon de son procès au Congrès. Pas question, disent les procureurs démocrates qui enclenchent les débats aujourd'hui. Jean-Roger Bion à ce micro. Nous sommes le mardi 9 février 2021. On revient dans un instant. Nous émettons de Washington. À tout à l'heure pour la suite de ce journal.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La suite de nos informations ce mardi 9 février 2021, les autorités sénégalaises ont démantelé fin janvier une cellule de soutien au groupe djihadiste du prédicateur malien Amadou Koufa. Selon le quotidien Libération, cette cellule, composée de 4 hommes, a été interpellée dans la petite ville frontalière de Kidira, dans l'est du pays. Les précisions de John Lindon.
Il s'agit, selon le journal, d'un boutiquier placé sous surveillance depuis 2 ans, dont le numéro de téléphone figurait dans un groupe WhatsApp lié à la Katiba Bassina du prédicateur malien Amadou Koufa. Cette unité, baptisée Front de Libération du Bassina, est apparue dans le centre du Mali en 2015. Elle est l'une des composantes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, plus grande alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda. Des images de propagande djihadiste ont été retrouvées sur les téléphones saisis chez le boutiquier, qui aurait en outre hébergé en 2020 l'un des trésoriers de la Katiba Bassina. Un autre habitant de Kidira, lui aussi commerçant, aurait également aidé des Sénégalais à rejoindre le groupe djihadiste avec 2 complices, qui ont également été interpellés. Les 4 hommes ont été mis à la disposition du procureur à Dakar, qui a ouvert une information judiciaire pour association de malfaiteurs, apologie du terrorisme et acte d'appui au terrorisme, précise le quotidien.
En République démocratique du Congo, les autorités vont lancer la semaine prochaine une campagne de sensibilisation et d'explication pour promouvoir le vaccin contre le coronavirus, une question sensible dans ce pays. Les détails avec Mouamadou Mfa.
Le ministre de la Santé, Eteni Longondo, l'a annoncé à la télévision publique. Nous pensons que nous allons bientôt introduire le vaccin ici, évidemment après avoir fait des analyses approfondies, a-t-il déclaré, sans révéler le nom du vaccin choisi ni la date du début de la vaccination effective. Il a estimé que le vaccin contre le COVID-19 est une voie inévitable qui peut sauver des vies, même si ce n'est pas obligatoire pour la population. La vaccination contre le coronavirus est un sujet très délicat en RDC où la méfiance envers le vaccin est répandue. Dans ce contexte, de nombreux messages évoquant des théories du complot sont régulièrement partagés dans les réseaux sociaux. Les autorités congolaises font la promotion du vaccin, mais aussi de leurs produits locaux. Le 11 janvier dernier, le président Félix Tshisekedi avait salué 2 produits congolais censés traiter le coronavirus, le Manacovid et l'Articovid, que l'OMS avait accueilli avec prudence, disant attendre les résultats des essais cliniques.
Ici aux États-Unis, les avocats de Donald Trump ont demandé lundi au Sénat de refermer immédiatement le procès de l'ancien président qu'il dénonce comme une violation de la Constitution et une mise en scène politique dangereuse pour la démocratie. Son procès s'ouvre ce mardi devant la Chambre haute. Abdourahmane Dia.
Maître David Chauen et Bruce Castor, les avocats de l'ex-président, dans un argumentaire de 78 pages transmis à la Chambre haute du Congrès à la veille de l'ouverture des débats, estiment que l'acte d'accusation adopté par la Chambre est anticonstitutionnel à plusieurs titres et un seul suffirait à le déclarer immédiatement nul et non avenu. Laisser libre cours à cette mise en scène politique serait un danger pour notre démocratie, ajoute-t-il, en reprenant leur principale ligne de défense. Donald Trump ne peut pas être jugé dans le cadre de la procédure de destitution puisqu'il n'est plus au pouvoir. La Constitution fixe la nécessité d'une majorité des 2/3 pour un verdict de culpabilité. Or, le Sénat compte 100 élus et 45 sénateurs républicains ont déjà fait savoir qu'ils ne se considèrent pas compétents pour juger un simple citoyen. Trump est accusé d'avoir incité ses partisans à envahir le siège du Congrès au moment où les élus certifiaient la victoire du démocrate à la présidentielle. Il y a 1 an, la Chambre haute du Congrès avait déjà acquitté Donald Trump, jugé pour abus de pouvoir, parce qu'il avait demandé à l'Ukraine d'enquêter sur son rival Joe Biden.
C'est maintenant l'heure de la Minute Éco, présentée par Nani Talani.
La start-up Oja a signé un partenariat avec la ville de Kinshasa en RDC pour sécuriser les déplacements en taxi dans la capitale. Un dispositif placé dans chaque taxi permet la géolocalisation, une communication avec le chauffeur par messagerie et un système d'alerte permet de signaler d'éventuelles agressions. Les propriétaires de taxis souscrivent à l'offre de traçage et les passagers, eux, s'abonnent via l'application mobile. Dès mi-février, seuls les chauffeurs utilisant Oja pourront circuler à Kinshasa. La pression fiscale en Côte d'Ivoire s'est établie à 12,5% en 2020, a indiqué Aboussié Ouattara, le directeur général des impôts, la semaine dernière à Abidjan. Il précise que ce taux se situe largement en deçà des normes communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui fixe le niveau à 20%. Les marchés mondiaux ont rebondi énergiquement hier lundi, tendent à 5,43 de 1,0. Les marchés mondiaux ont rebondi énergiquement hier lundi, tandis que le cours de l'argent s'envolait. Dernier épisode en date d'un feuilleton spéculatif à rebondissement. Les investisseurs ont pu se réjouir des bonnes données macroéconomiques, notamment en zone euro et aux États-Unis. Surtout, le produit intérieur brut américain devrait retrouver son niveau d'avant la pandémie dès la mi-2021, mais il faudra attendre 2024 pour retrouver les niveaux d'emploi antérieurs à la crise, selon les projections actualisées des services du budget du Congrès publiées lundi.
Et maintenant, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Le Bayern Munich jouera jeudi la finale du Mondial des clubs contre les Tigres mexicains avec un doublé de Robert Lewandowski. Les Bavarois ont battu hier le champion d'Afrique à la Ligue d'Égypte 2-0. En demi-finale à Doha, les Allemands ne sont plus qu'à un pas d'un grand chelem historique de 6 titres consécutifs après leur quintuplé de 2020, Coupe et Championnat d'Allemagne et Supercoupe d'Allemagne et d'Europe. La Confédération africaine de football connaîtra son nouveau président le 12 mars prochain. Dernier rebondissement dans une campagne qui n'en manque pas. Et ce sera désormais la FIFA qui tranchera sur l'éligibilité du président Ahmad Ahmad, candidat à sa propre succession selon le comité exécutif de la CAF, réuni à Yaoundé au Cameroun. Élisée Mpatine.
Ahmad Ahmad, isolé ou lâché par le comité exécutif de la CAF, l'actuel patron du foot africain, réhabilité dans ses fonctions par le tribunal arbitral du sport et qui a obtenu le feu vert de la commission de gouvernance de la CAF, n'a pourtant aucune garantie pour se représenter aux prochaines élections. Le comité exécutif a en effet décidé que c'est à la FIFA de trancher le sujet de l'éligibilité du malgache en se référant à la article 44 des statuts de l'institution qui stipule que les décisions de la commission de gouvernance de la CAF ne sont pas forcément souveraines par rapport à celles du comité exécutif. Une situation que fustige le journaliste camerounais Richard Nara du site africafoot.fr.
C'est quand même curieux de voir que la première personnalité du football africain, qui est le président Ahmad, se voit désavouée par ses pairs et par certaines personnes même qu'il a cooptées dans ce comité exécutif qui aujourd'hui sont en train de lui tourner le dos en pensant que oui, il n'incarne plus les valeurs du football africain. Mais c'est quand même dommage qu'on retrouve des Africains qui pensent qu'à leur gueule parce que derrière, ils sont montés par les gens de la FIFA.
Pour le Malien Sekou Saïd Tiara Souba, chef des sports à Radio Bengué à Bamako, le malgache est mal parti.
Ahmad Ahmad n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Moi, je pense qu'on ne peut pas lui reprocher ce qui n'est pas vrai. Je crois fortement que Ahmad Ahmad n'a pas encore fini ses problèmes avec les membres de la CAF, le comité exécutif de la CAF, et bien encore avec les différents présidents de fédérations.
Il y a désormais très peu de chances de voir Ahmad Ahmad briguer sa propre succession à la tête du foot africain, reconnaît Nazim Bessol, journaliste sportif algérien du site footafrique.com.
Je pense que Ahmad Ahmad ne pouvait faire autre chose que se retirer. Maintenant, il a décidé de livrer bataille et de tenter une réhabilitation. On voit qu'aujourd'hui, le TAS lui offre cette opportunité. Maintenant, on voit que, y compris au sein de la CAF, il ne bénéficie pas du soutien de l'ensemble de ses membres du comité exécutif.
Des voix s'élèvent déjà et auraient conseillé à Ahmad Ahmad de se retirer de lui-même en attendant la décision définitive du TAS prévue pour le 2 mars prochain. Élisée Rompati, Cotonou, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Jean-Roger Billon toujours en votre compagnie. À présent, nos dossiers du jour. Au Tchad, Succès Masra, leader du parti Les Transformateurs et l'un des opposants les plus virulents au régime du président Idriss Déby, a trouvé refuge dans le périmètre de sécurité de l'ambassade américaine après la répression de leur manifestation samedi pour s'opposer à un 6e mandat du chef de l'État tchadien. Dans une interview accordée à André Kodbajinga, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena, Succès Masra a déclaré que sa vie est en danger.
Nous étions plus nombreux que cela et on est venu emporter certains parmi nous par une sorte un peu de course de survie d'une certaine manière. Et donc M. Mamadou Ribédou, M. Mohamed Oumar Ibrahim faisaient partie de ceux avec lesquels on marchait en tant que leader ensemble et ils ont été emportés par la fourgonnette du gouvernement mobile d'intervention de la police et certains officiers du GEMIP se sont mis du côté de l'ambassade pour tirer sur nous pour que nous ne rentrions pas à l'ambassade. C'était une véritable course pour y rentrer.
Selon le porte-parole de la police nationale, vous aurez non seulement violé les locaux de l'ambassade mais également violenté les éléments de la police nationale. Dites-nous comment cela peut-être possible.
La réponse, il faut la faire au président actuel du Tchad, celui qui a promis la liberté et qui aujourd'hui est en train d'emprisonner des Tchadiens qui exercent un droit constitutionnel. Nous ne sommes pas dans une zone de non-droit. Nous avons été accueillis par un professionnalisme et surtout par l'humanité de ces officiers de l'ambassade des États-Unis à qui je voudrais rendre hommage et dire merci. Ils ont assisté les personnes en danger. Pour tout vous dire, ils ne savaient même pas que le président des transformateurs que je suis faisait partie de ces marcheurs. Ils ont accueilli des êtres humains qui manifestement étaient poursuivis par des gens qui leur tiraient dessus. Et donc c'était une assistance aux personnes en danger. Si nous avions eu un comportement malsain, nous ne serions pas là où je suis actuellement en train de vous parler. Et heureusement, ici, il n'y a pas coupure d'électricité et ici, les caméras de surveillance sont 24 heures sur 24 opérationnelles. Donc ces mensonges-là, nous les laissons avec. Donc nous ne sommes pas étonnés. Mais lui, ce monsieur dont vous parlez, ne mérite même pas une réponse.
Monsieur le Président, est-ce que vous êtes en sécurité? Puisque nous avons remarqué des dizaines de véhicules de la police qui rôdent tout autour de l'ambassade des États-Unis d'Amérique.
Le siège des transformateurs est pris en otage aujourd'hui et les gens qui quittent le siège pour rentrer sont pourchassés, sont surveillés, certains sont même arrêtés. Ici, à l'ambassade, nous sommes en sécurité. Mais tout autour de l'ambassade, il y a des dizaines de véhicules qui ne sont pas des véhicules de n'importe lesquels. Ce sont les dirigeants, les premiers responsables de la police nationale. Et comme les Tchadiens le savent aujourd'hui, les gens qui sont habillés en GEMIP ne sont pas forcément les gens du GEMIP en réalité. Donc il y a même une usurpation des entités pour masquer les forfaitures auxquelles ils se livrent. Et il y a eu même une tentative de me prendre, une fois même que je suis encore à l'ambassade des États-Unis à l'heure où je vous parle, je suis activement recherché pour avoir exercé librement le droit de marcher. Si un peuple, on lui interdit le droit de marcher, on lui demande de ramper. Et si vous rampez, ça veut dire que vous êtes soumis, ça veut dire que vous êtes un esclave. Nous ne serons jamais des esclaves dans notre propre pays. Des messieurs d'ailleurs qui a accusé, faut-il le rappeler, la France de l'avoir obligé à modifier la constitution pour rester contre la volonté du peuple qui avait décidé de limiter le nombre de mandats à deux. Donc aujourd'hui, au moment où le président Macron s'apprête à venir au Tchad, nous sommes en droit de lui demander au nom du peuple une réponse officielle. C'est une très grave accusation. Si c'est une vraie accusation, le peuple veut la réponse. Ça fait 5 mandats. Il ne peut pas aller pour ce 6e mandat. C'est le mandat de trop. Le peuple est fatigué. Je suis fatigué de voir mes mamans, les seins nus, marcher pour exprimer leur indignation et leur colère. Je suis fatigué de voir mes petits frères et petites sœurs essuyer leur sang par le drapeau du Tchad.
Docteur Succès Masra, le chef du parti Les Transformateurs au Tchad.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Niger, les deux candidats au second tour de l'élection présidentielle du 21 février prochain ont lancé ce week-end leur campagne. Mahamane Ousmane était à Tillaberi alors que Bazoum Mohamed, entouré de ses alliés, les deuxièmes et troisièmes du premier tour notamment, est resté dans la capitale pour donner le coup d'envoi de sa campagne. Le point dans ce reportage de notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
C'est à Tillaberi, une des régions les plus frappées par les attaques terroristes de ces dernières années, que le candidat Mahamane Ousmane a lancé sa campagne pour ce second tour de l'élection présidentielle. C'est le signe de sa volonté, une fois élu, de s'attaquer résolument à cette insécurité qui endeuille au quotidien les populations de la dite région.
Il est de notoriété publique que les autorités actuelles ont démissionné devant leur devoir d'assurer une riposte adéquate avec des moyens convenables contre ce banditisme armé qui sévit dans notre pays. Elles ont par la même occasion exposé nos vaillantes forces de défense et de sécurité ainsi que la population civile de ces régions à une insécurité généralisée et permanente. Le programme que je propose au peuple nigérien souverain. Un programme qui vise l'avènement de Niger de paix, d'unité,
de développement partagé et de progrès pour tous.
Le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, était lui à Niamey, la capitale, avec notamment ses alliés de taille que sont Albadé Abouba et Seyni Oumarou, arrivés respectivement 4e et 3e lors du premier tour.
Nous, leaders engagés par la présente déclaration solennelle, demandons, par conséquent, à chacune et à chacun de nos militants, du niveau national au niveau de base, de s'investir résolument afin d'assurer à notre candidat une victoire éclatante le 21 février 2021. En avant donc pour une victoire certaine.
Pour Mohamed Bazoum, même avec cette large coalition, il faut un engagement soutenu pendant cette campagne pour remporter la victoire.
Nous aurions en effet tort de croire que tout est joué à l'avance et qu'il nous suffira d'attendre tranquillement la date du 21 février pour cueillir le pouvoir comme on cueillerait un fruit mûr. Cette élection, comme toutes les autres élections, sera difficile et commande que nous soyons mobilisés, bien organisés, intelligents, vigilants et très engagés. Nos adversaires, conscients du rapport de force qui leur est totalement favorable, sont, quant à eux, déjà prêts.
Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la tenue le week-end dernier du 34e sommet de l'Union africaine. Le président congolais Félix Tshisekedi, qui prend la tête de l'organisation pour un an, a un agenda chargé. La lutte contre le Covid-19 et la coordination dans l'acquisition des vaccins, la restitution des œuvres d'art, le règlement des conflits et la mise en place de la zone de libre-échange continentale lancée le 1er janvier. Tout ceci alors que l'Union africaine poursuit son programme de réforme qui doit s'achever cette année. Les défis qui attendent la nouvelle direction de l'Union africaine, c'est ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Le sommet de l'Union africaine ce week-end a été marqué par la réélection du président de la Commission, Moussa Faki Mahamat. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, est devenu président en exercice de l'organisation qui doit faire face à d'importants défis comme la pandémie de Covid-19 et la montée du terrorisme en Afrique. Mouhamadou Mfa a joint l'analyste politique Ibrahima Kane.
L'Union africaine, surtout à travers une structure qui s'appelle le CDC, a coordonné pratiquement les interventions de tous les États africains. L'achat du matériel, l'achat de médicaments et puis aussi une coordination au niveau des actions que les États devaient mener pour vraiment gérer la pandémie qui était totalement nouvelle pour le continent. Pour la première fois, on a élu 8 commissaires et non 10 comme par le passé. Tous les éléments étaient en place au bon moment pour vraiment organiser cette transition et organiser cette élection. Et donc, ça montre que M. Faki a un peu bien travaillé pendant ces 4 dernières années.
Il y a beaucoup de crises qui traversent le continent. Il y a la crise anglophone au Cameroun, la guerre au Tigré, le terrorisme qui progresse. Comment expliquer cette forme d'attentisme de l'Union africaine ou le peu d'action visible par les populations?
Une des difficultés de l'Union africaine, c'est la capacité du Conseil de paix et de sécurité à gérer les crises africaines. D'ailleurs, parmi les réformes qui étaient envisagées, une de ces réformes concerne le Conseil de paix et de sécurité parce qu'il fonctionne mal. Au moment où la crise éthiopienne était à son fort, c'est l'Éthiopie qui dirigeait le Conseil de paix et de sécurité. Et l'Union ne pouvait pas agir. Donc il faut que, de ce point de vue, que l'Union réajuste le fonctionnement de certaines de ses institutions. Il y a également que les sanctions qui sont prévues par l'acte constitutif de l'Union africaine et les autres traités de l'Union africaine pour faire face à ces situations ne sont jamais appliquées. Pour une organisation comme celle-là, si elle ne s'applique pas elle-même les règles qu'elle a créées, ça devient difficile de pouvoir critiquer les autres. Le manque de moyens de l'Union également explique cela, parce que jusqu'à présent, on a réformé le système de financement de l'Union africaine, mais la machine n'a pas encore très bien pris et cela pèse énormément.
Il y a un nouveau président en exercice, en l'occurrence le Congolais Félix Tshisekedi, qui doit lui-même faire face à plusieurs crises politiques, sécuritaires et sanitaires dans son pays. Peut-il faire mieux que ses prédécesseurs?
Tshisekedi a l'avantage d'être jeune. Il est parmi les plus jeunes chefs d'État africains. Il a aussi l'avantage d'être le président d'un des pays qui a le plus souffert. Mais c'est en même temps aussi un président qui a quand même montré en un an d'exercice du pouvoir sa capacité à pouvoir gérer les situations difficiles. Il a pris un pays qui était pratiquement exsangue. Il n'avait même pas de majorité au niveau de son parlement, mais en une année, il a pu transformer tout cela à son avantage. Et on espère qu'il va pouvoir faire de même au niveau de l'Union africaine. Mais ce que je remarque de plus intéressant dans sa démarche, il est venu avec un agenda que je pourrais dire réaliste.
Ibrahima Kane, analyste politique et spécialiste de l'Union africaine.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'opposition haïtienne a engagé un bras de fer avec le président contesté Jovenel Moïse en désignant un dirigeant censé assurer la transition. Cette nouvelle crise intervient au lendemain de l'annonce par les autorités qu'elles avaient déjoué un projet de coup d'État contre le président Jovenel Moïse. Pour en parler, Éric Manirakiza a joint à Port-au-Prince un membre de l'association Haïti communautaire, Willy Odessem.
Pour l'instant, on peut dire que la situation en Haïti, ça va de mal en pire. On vit sur le dos de la peur, la criminalité, le kidnapping et tout ça. Mais pour l'ordre politique, on n'a pas vraiment, une vision. Ce que je constate dans la rue, c'est qu'il y a pratiquement presque personne dans la rue, presque aucun moyen de transport. Tout le monde est figé chez eux, sous la peur, sous la menace. Et une petite partie est dans la rue en train de protester sous la menace des armes de la police ou des autres groupes de bandits. Nul ne sait comment ça va passer, nul ne sait comment qu'est-ce qu'on va faire, puisque l'opposition n'était pas encore prêt à diriger le pays. Et voici que maintenant que le président, le mandat présidentiel est terminé, donc on vit dans l'ignorance, personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Même l'opposition, hier, on s'attendait à une grande manifestation avec beaucoup d'opposants, avec l'opposition à la tête et tout ça et tout le monde. Mais hier, ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y avait personne dans la rue et que l'opposition a vraiment eu, un slap, un énorme slap entre les mains du gouvernement. On vit dans l'inconnu, dans le doute, dans la peur et tout le monde est resté figé chez eux.
Mais le président Jovenel Moïse a proposé une nouvelle constitution. Est-ce que le référendum aura lieu?
Il a énoncé, mais ça ne va pas se passer puisque l'opposition ne décide pas de s'asseoir avec le président encore. Et tout ce qu'ils veulent maintenant, c'est que le président laisse le pouvoir et tout ça. Même ils ne sont pas encore préparés pour assurer la transition. Donc, le président demande un dialogue, un référendum, mais qui est un peu trop tard pour lui et pour aussi l'opposition, puisque bon, c'est encore pire pour l'opposition, puisque l'opposition n'est pas encore préparée, mais le président est au pouvoir. Ça peut toujours se faire, mais pas dans les moments dont il avait décidé. C'est pour cela que je dis maintenant, on vit vraiment dans le doute, parce que personne ne sait exactement ce qui va se passer dans les jours à venir.
Est-ce que vous pensez que des politiques peuvent s'entendre et éviter de nouvelles violences?
Le pire fléau d'Haïti, c'est la politique. Et d'après moi, le président est ouvert à tout dialogue. Le président a toujours énoncé ce mot. Il est toujours ouvert à tout dialogue, il est toujours ouvert à tout partenariat. Mais une partie de l'opposition ne décide pas de travailler en collaboration avec le gouvernement à cause de raisons politiques. Moi, je ne sais pas personnellement, mais ce que je sais, ce que je vois, c'est qu'il y a une partie de l'opposition qui veut travailler avec la présidence, mais l'autre partie ne décide pas de travailler ni avec la présidence. Et c'est cette petite partie de l'opposition qui est maintenant un virus pour le pays, puisque certes, vous opposez, mais lorsque on vous ouvre la main, on vous demande de dialoguer, vous ne souhaitez pas, vous souhaitez toujours continuer dans le chemin de la violence. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'une petite partie utilise cette situation pour se remplir les poches. Mais ce n'est pas bon pour toute la population. Le pire problème de mon pays, c'est la politique. Parce que, par exemple, en Haïti, on a plus de 64 partis politiques. Mais comment voulez-vous que le peuple choisisse entre 64 personnes? Donc c'est de là que vient le problème politique en Haïti.
Willy Odessem, membre de l'association Haïti communautaire, joint à Port-au-Prince. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Villon, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Excellente journée à tous.